7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. L'émission commence déjà même maintenant. Aujourd'hui, quel droit des femmes en Arabie Saoudite? Nos invités en discutent déjà. Quelles évolutions de la société? Le 24 juin prochain, vous le savez peut-être, les voisins et les voisines, les saoudiennes pourront conduire et passer leur permis sans l'accord de leur tuteur. C'était le dernier pays au monde où les femmes n'étaient pas autorisées à conduire. Alors comment sont-elles parvenues à ce changement? L'Arabie Saoudite est-elle vraiment sur le chemin d'une transformation sociale avec plus de liberté pour les individus? Entre affichage politique, vaste plan de réforme du prince héritier Mohamed Ben Salma et aspiration d'une société très jeune, la question des femmes permet-elle finalement de mieux comprendre où voit le royaume wahhabite, berceau d'un islam rigoriste? Bref, l'Arabie Saoudite, avec ses 30 millions d'habitants, dont un tiers d'étrangers, veut-elle devenir un pays comme un autre, ou du moins en apparence? Nous allons en discuter, en débattre avec nos invités. Clarence Rodriguez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez été longtemps correspondante à Riyad, notamment pour RFI. Vous avez vécu 11 ans dans ce royaume finalement mal connu, hein, dans ses détails et pour ce qui est de sa société. Vous avez publié notamment Révolution sous le voile, qui a donné lieu à un documentaire télévisé, et Arabie Saoudite 3.0 sur les jeunes saoudiens. Puisque 70% de la population a moins de 35 ans. Stéphane Lacroix également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur, spécialiste de l'Arabie Saoudite au CERI à Sciences Po Paris, et vous avez publié Les islamistes saoudiens, une insurrection manquée. Et bien sûr, quant à vous, les voisins et les voisines, c'est le moment, si cela vous intéresse, cette transformation de la société saoudienne, de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Il faut nous appeler dès maintenant, c'est aussi notre numéro de téléphone sur WhatsApp. Et vous pouvez nous laisser également donc des messages vocaux.
Sept milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Clarence Rodriguez, Stéphane Lacroix, on est pratiquement un an après l'arrivée au pouvoir du prince héritier, qui a été promulgué donc prince héritier, Mohamed Ben Salma.
Ben Salman, bien sûr.
Ouais. Est-ce que ça a un lien avec cette autorisation des femmes qui vont être autorisées à conduire sur décret royal? Qu'est-ce que c'est lui qui tient l'agenda réellement aujourd'hui?
Ah ben oui, c'est l'homme fort qui a tous les pouvoirs, en tous les cas, aujourd'hui en Arabie Saoudite. Mais c'est intéressant, vous disiez donc qu'un an, c'est-à-dire que demain, le 21 juin, il faut savoir comment il est arrivé, c'est-à-dire qu'il a évincé son cousin Mohamed bin Nayef, hein, qui était le prince héritier en titre, qui était un homme fort aussi, c'était le ministre de l'Intérieur. Donc ça a été une première purge, donc il est arrivé avec cette purge. Et... il s'est arrogé tous les pouvoirs. C'est lui qui décide, avec bien évidemment, attention, il est adoubé par le père, parce que on parle très souvent, vous savez, on parle de Mohamed bin Salman. On a l'impression que finalement, il est déjà roi. Sauf qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a encore son père qui a plus de 80 ans, qui est quand même pas très en forme, mais c'est quand même lui. Et c'est lui qui, si vous voulez, permet en tous les cas à son fils. De s'exprimer et de s'arroger encore une fois tous les pouvoirs.
Donc cette date, le 24 juin, les Saoudiennes seront autorisées à conduire dans le royaume d'Arabie Saoudite. Cette date-là n'est pas un hasard, Stéphane Lacroix.
Non, c'est l'une des mesures phares de ce grand projet de réforme que Mohamed Ben Salman avait annoncé. En fait, il l'avait annoncé dès 2016. La montée en puissance du personnage, elle commence avec l'arrivée au pouvoir de son père en 2015. Et sous l'autorité de son père d'abord, il va se promouvoir en grand réformateur. Il va vouloir donc mettre en avant sa jeunesse. Et donc dès 2016, d'une sorte de campagne en fait, faut rappeler que même dans les régimes autoritaires, l'opinion publique compte. Et donc il va jouer beaucoup sur l'opinion publique, sur la construction de l'image d'un réformateur qui veut tout changer. Et les questions sociétales et en particulier la question des femmes, vont être l'un des aspects centraux de son programme de réforme, proposé dès 2016. Et donc, évidemment, avec son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire sa nomination de prince héritier, mais en vérité, on l'a dit, c'est l'homme fort. Le père, est aujourd'hui, a délégué complètement l'autorité à son fils. Et il n'y a plus personne aujourd'hui qui peut lui barrer la route. Donc, il est là pour encore quelques décennies, si Dieu lui prête vie, jusqu'à... Donc, il sait qu'il est en position. Aujourd'hui, il a gagné, d'une certaine manière, cette campagne. Il a éliminé tous ses rivaux. Et donc cette mesure qui est de donner le droit de conduire aux femmes est éminemment symbolique et c'est autour de ce type de mesure qu'il a construit toute son image.
Clarence Rodriguez, les femmes donc vont être autorisées à conduire. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Parce que en dehors de l'atteinte au droit fondamental de circuler librement, ça posait un problème en fait pour les femmes de ne pas être autorisées à conduire dans la vie quotidienne.
Bah oui, dans la vie quotidienne que moi j'ai vécu aussi, parce qu'en tant qu'occidentale, parce qu'on pense que les occidentales pouvaient ou peuvent conduire, absolument pas. On est logé à la même enseigne donc que les autochtones, que les saoudiennes. Bah, en fait, le problème c'est que on était un féodé, un chauffeur, et que si vous voulez, c'est quand même onéreux, de plus en plus onéreux. Le pouvoir d'achat donc a quand même baissé et diminué, y compris dans les classes moyennes. Les femmes étaient, on était obligées donc de dépendre d'un chauffeur, souvent si vous voulez indien.
Il y a eu des pénuries de chauffeurs, non, oui. dans le passé. On est à Riyad, une ville de 6 millions d'habitants. Il arrivait qu'il n'y ait pas suffisamment de chauffeurs sur le marché du travail.
Ben écoutez, vous savez qu'en 2013, en novembre 2013, Ferroi Abdallah donc avait effectué une purge en renvoyant donc la main d'œuvre donc notamment, je vous dis, les Indiens, les Philippins, etc. Donc il y a eu un moment donné parce qu'ils n'avaient pas leurs papiers, n'étaient pas en règle, et donc ils ont en renvoyé dans leur pays ces chauffeurs. Donc il était très difficile de trouver donc des chauffeurs. Et puis je vais vous dire une chose, c'est que un salaire ne suffit plus en Arabie Saoudite. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan Vision 2030, le prince Mohamed bin Salman veut donner une place plus importante donc aux femmes. En ce moment, elles occupent 15% donc de la vie active. Elles pourrait être 30 à 40% donc en 2030, donc dans 12 ans, c'est demain.
Et donc, c'est vrai que... Elles sont autorisées à travailler d'ailleurs sans demander l'autorisation de leur tuteur.
Oui, non, alors
sur
pour
certaines professions, pas toutes.
Non, et puis, vous savez, c'est encore pareil. Ça dépend quelles sont les femmes. Vous voyez,
bien sûr. Mais alors là, sur la question de la conduite, donc c'était clairement aussi un frein économique pour les femmes qui voulaient travailler.
Je pense qu'il faut aussi dire que dans les classes populaires, il y a des classes populaires en Arabie Saoudite, tout le monde n'est pas riche, on ne peut pas payer un chauffeur. C'est le mari qui conduit sa femme quand elle travaille. Et donc, alors on pense beaucoup à la situation des femmes, mais il faut dire aussi que pour les hommes des catégories populaires, moi j'ai des amis qui racontaient des histoires terribles. C'est-à-dire qu'ils avaient leur femme et leurs 4 enfants, il fallait les emmener le matin, la femme au travail, les enfants à l'école. Quand on connaît la circulation à Riyad, on comprend. Il disait, je passe 8 heures dans ma voiture par jour.
Donc, c'était au détriment.
Est-ce qu'en dehors des grandes villes...
Pour dire, ça n'est pas qu'une histoire de droits des femmes, c'est aussi une histoire de droits des hommes.
Vous avez raison, et c'était au détriment, très souvent, je veux dire, de l'aspect économique. Parce que quand il fallait emmener, par exemple,
l'enfant... C'est ça, un frein, finalement, à l'économie.
Complètement.
Et est-ce qu'en dehors des grandes villes, il y a des femmes qui, de conditions modestes, qui, en réalité, conduisent d'un village à l'autre ?
Oui, dans le désert, ça fait très longtemps d'ailleurs, vous savez, vous avez les urbaines, j'ai envie de dire, les saoudiennes urbaines, des cités, des villes, etc., ne pouvaient pas conduire, n'avaient pas l'autorisation. En revanche, on le sait moins, mais vous avez les femmes dans les déserts, parce qu'il fallait effectuer quand même des longues distances, eh bien, elles conduisaient, et elles conduisent toujours, et ça fait plus de 30 ans.
Il faut s'attendre à quoi ? Un déferlement de femmes au volant ?
Oui, il va y en avoir. Dans un premier temps, celles qui ont déjà le permis, parce qu'en fait, il y a beaucoup de Saoudiennes qui conduisent à l'étranger.
Et donc, oui, mais pas dans n'importe quel milieu non plus.
Pas dans n'importe quel milieu. Ça. Donc, il va y avoir des femmes de la bourgeoisie, on va dire, celles qui ont vécu à l'étranger, qui ont passé leur permis, ou des anciennes étudiantes, parce qu'il y a beaucoup d'étudiantes saoudiennes aujourd'hui.
Mais là, par exemple, il y a des femmes qui prennent des leçons de conduite en prévision du 24 juin.
À l'université, alors si on parle de Riyad, à l'université Princesse Noura, vous avez donc à l'endroit, c'est une auto-école, et vous avez donc des Saoudiennes qui passent le code. Qui passe la conduite. Ce sont 30 heures, par exemple, de conduite. Ça coûte l'équivalent de 500 euros. Mais encore une fois, ce n'est pas toutes les femmes, et ça c'est important, qui veulent conduire. Et vous avez des femmes qui
ne veulent
pas.
J'allais vous poser la question, que pensent les Saoudiennes de ces changements en fonction des générations, en fonction des milieux sociaux ?
C'est probablement une décision qui est populaire dans une certaine mesure. Je pense que la majorité des Saoudiens, tout âge confondu aujourd'hui, sont favorables. Et c'est ce que Mohamed Ben Salman a compris, c'est-à-dire que c'était une décision populaire en Arabie. La société saoudienne a beaucoup changé. Dans les années 90, la majorité aurait probablement été contre, femmes comprises, parce qu'on est une société très conservatrice, où on considère que chacun a sa place, etc. Toutes ces conceptions-là, elles ont considérablement évolué à partir des années 2000, parce que l'Arabie saoudite, de fait, s'est ouverte. C'est-à-dire que la mondialisation a déferlé sur l'Arabie, les réseaux sociaux, les chaînes satellitaires, les Saoudiens se sont aperçus qu'ils n'étaient plus une île, enfin, que le monde, d'une certaine manière, existait sans eux et qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, ce qu'on a aujourd'hui en Arabie, dans une grande partie de la population, et en particulier dans les jeunes générations, mais on a dit qu'elles étaient très largement majoritaires, ces jeunes générations, eh bien, c'est une volonté de normalité. Tout le monde dit en Arabie, on a envie d'être normaux, on en a marre d'être ce pays.
Et en même temps, d'être nous-mêmes.
Voilà, d'être nous-mêmes aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, être nous-mêmes, ça a été ce qui a dominé le discours pendant des décennies. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment, on a envie d'être normaux. On en a marre d'être vu par le monde
comme des parias,
comme étant ce pays bizarre, entre guillemets.
Est-ce que cette autorisation des femmes pour conduire, c'est une étape importante, mais une étape parmi d'autres, puisque auparavant, il y a eu une série d'événements sur lesquels ce serait bien que vous reveniez, sur la culture, des salles de cinéma, de concerts mixtes, l'autorisation dans la fonction publique, l'armée, la police recrute des femmes. Est-ce que tout ça, c'est de l'affichage? Ce sont des réalités? Ça concerne qui? Combien? Est-ce qu'on peut revenir sur ces étapes précédentes?
Effectivement, on dit que c'est de l'affichage, etc., que ce sont des réformettes, etc.
Salle de cinéma, par exemple.
Non, ce n'est pas des réformettes, parce que vous avez des jeunes, vous avez des gens qui s'intéressent quand même à la culture et au cinéma. Vous avez des producteurs de films, vous avez, si vous voulez, on ne le sait pas, parce qu'en fait, ça a tellement été étouffé, etc. Mais il y a, si vous voulez, le cinéma, ce n'est pas une réformette. Alors, ça peut être une réformette, attention. Si c'est à l'aune, par exemple, du tutorat, oui, c'est une réformette. Parce que, encore une fois, vous voyez, on parle de ces réformes, les femmes qui vont pouvoir travailler dans la police, qui vont travailler, qui peuvent intégrer donc, l'armée, toutes ces femmes-là, c'est important que ces femmes puissent trouver leur place. Mais moi, je vais vous dire franchement, pour discuter et pour avoir vécu aux côtés de ces femmes-là, le droit de conduire, c'est important, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est le plus important, c'est d'obtenir l'abolition du tutorat. Mmh. Parce que ne l'oublions pas, les femmes en Arabie Saoudite, aujourd'hui, sont inféodées donc à un tuteur, un maram, et que elles ne... Alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'efforts de fait, hein, avec Mohamed Bin Salman, et c'est vrai qu'elles peuvent ouvrir...
Un commerce,
elles peuvent...
Donc, sans demander l'autorisation du tuteur. Ouais. Le tuteur, c'est...
Oui,
on va
attention.
Le rappeler. Le tuteur, c'est le mari, le père, le frère.
Oui,
en général,
ça peut être le fils quand elles sont veuves.
Exactement.
Alors vous imaginez la situation
d'une
femme qui veut demander l'autorisation.
Ça veut dire qu'une femme saoudienne est mineure à vie.
Son fils.
Hein,
oui, aujourd'hui, oui, absolument.
Se marier, elle a besoin d'autorisation de son tuteur pour avoir un passeport.
Oui, absolument. Oui, elle a besoin.
Pour un passeport, pour voyager.
Pour travailler.
Vous avez besoin d'autorisation du tuteur.
Parce qu'il y a quand même une chose qui est importante. Vous avez ce qui est administratif et ce qui relève également des traditions. C'est pas parce que les femmes vont pouvoir conduire, c'est pas parce que les femmes peuvent travailler que dans les familles, ça se passe comme ça. Vous avez des familles qui sont profondément conservatrices et dont les tuteurs ne veulent pas que les femmes ou leurs filles conduisent ou travaillent.
Vous voulez dire que donc une épouse qui, le 24 juin, aura l'autorisation de conduire légalement dans le royaume d'Arabie Saoudite, ne le fera pas si sa famille est contre?
A priori, non. Peut-être dans certains cas. Alors, je ne sais pas. Ouais. Je dois avouer que je ne sais pas si, pour obtenir un permis de conduire, on doit avoir l'autorisation du tuteur.
Il faut demander. Il faut qu'elle passe. Absolument.
Il faut que le tuteur donne son accord.
Bien sûr. Donc, du coup, c'est toujours dans ces mêmes familles. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu 200, depuis le mois d'avril, il y a eu 200 permis de conduire qui ont été délivrés à ces jeunes femmes ou femmes saoudiennes qui ne l'avaient pas passé donc, à l'étranger. D'accord ? Parce que les femmes qui ont passé, ce que disait Stéphane Lacroix tout à l'heure...
Mais qui ne sont pas encore valides, ces permis de conduire.
Ah non, mais elles sont en train de les homologuer.
Il y en a certaines qui l'ont déjà, parce qu'elles l'ont posté sur les réseaux sociaux, certaines ont posté leur permis
Oui, mais elles l'ont.
Mais elles ne sont pas non plus exagérées. Elles ne sont pas, si vous voulez, vous avez 67% de la population sont des femmes. Je veux dire, elles ne sont pas 67% à demander, à vouloir conduire. Il ne faut quand même pas exagérer. En revanche, c'est quand même une réforme phare. C'est celle qui se voit le plus à l'étranger. C'est celle qui qui peut donner, si vous voulez, une bonne image, entre guillemets, de l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a quand même tellement longtemps que les femmes souhaitaient conduire. Rappelez-vous, en 1990, elles étaient 47 à avoir essayé de conduire et elles ont été arrêtées. Et, enfin bon.
On va y revenir à ce long chemin qui a conduit à cette autorisation de conduire. Où est-ce qu'on en est pour ce qui est de la mixité ? La mixité dans les lieux publics, aujourd'hui, est toujours interdite en Arabie Saoudite ?
En théorie, oui, mais en fait, probablement la décision la plus audacieuse que Mohamed Ben Salman a prise dans les trois dernières années, c'est pas tellement, enfin c'est effectivement le droit de conduire des femmes, mais il y a une décision qui est passée un peu inaperçue, qui est probablement encore plus audacieuse. C'est celle qui consistait à retirer à la police religieuse la possibilité de procéder à des arrestations. Parce qu'en fait, ce qui faisait que la mixité était interdite, c'était l'action de la police religieuse. L'Arabie Saoudite n'a pas de texte, n'a pas de droit. Enfin, je veux dire, faut imaginer qu'en Arabie Saoudite, le droit n'est pas codifié. Le droit, c'est la charia, c'est-à-dire, les rois saoudiens l'ont répété les uns après les autres, notre constitution, c'est le Coran. Donc, il y a un certain nombre de choses en Arabie qui ne sont pas formellement codifiées. Et en particulier, cette question de la mixité n'est pas formellement, vous n'avez pas un texte de loi qui interdit la mixité. C'est la religion, telle qu'elle est interprétée par les oulémas d'Arabie saoudite, qui interdisait la mixité. Et cette religion, cette conception de la société, elle était appliquée par la police religieuse. C'était eux qui la faisaient, qui lui donnaient force de droit. Or, dès que la police religieuse aujourd'hui a le bras coupé, puisqu'elle n'est plus capable de faire quoi
par
que ce soit,
par le prince héritier, Mohamed Bin Salman,
de fait, effectivement, aujourd'hui, la mixité va se multiplier. Les gens vont commencer à se mélanger. De plus en plus.
Ça veut dire
qu'il
y a donc quelques restaurants aujourd'hui où il y a des femmes, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément voilées et dans des lieux mixtes.
Et ça, c'est nouveau.
Ça reste nouveau.
C'est nouveau.
Et évidemment minoritaire. Au sujet de l'abaya, donc cet habit qui couvre entièrement les femmes, noires dans la plupart des cas, toujours obligatoire dans les lieux publics.
Oui, mais vous savez que dernièrement, lors de sa tournée aux États-Unis, le prince héritier Mohamed Bin Salman a dit que ce n'était pas forcément obligatoire, que c'était un choix. C'est ça qui est important, c'est que il est en train, si vous voulez, de
il
mettre
a dit,
en place...
Une saoudienne sans abaya reste une musulmane comme les autres.
Oui, tout à fait. Donc,
c'est une bombe de dire ça, politiquement ?
Bah, pour les oulémas...
C'est un message aux conservateurs ?
Oui, pour les oulémas du pays, effectivement, c'est une rupture complète avec ce qu'eux ont toujours dit et ce que le pouvoir a toujours laissé entendre par le passé. Donc effectivement, oui, et le dire de cette manière-là, je pense que Mohamed Ben Salman, voilà, se donne aussi, se franc-parler d'une certaine manière, c'est un peu devenu sa marque de fabrique, et donc quand il dit les choses de cette manière-là, effectivement, il le dit de manière très directe, et on n'a jamais entendu un souverain saoudien avant dire les choses de cette manière-là.
Il bouscule quand même, vous savez. Il bouscule un peu les mentalités, là, les mentalités notamment de conservateurs.
Alors, justement, est-ce que tout ça est le résultat d'un si long combat du côté de la société civile, du côté des femmes activistes ? Et puis, quel est le revers de la médaille ? On en discute avec vous, Clarence Rodriguez et Stéphane Lacroix.
عني ما تقدر تبتعد عني ما
Sarah Al-Ramdi chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous sommes en direct et nous posons la question des droits des femmes en Arabie Saoudite, parce qu'on le disait depuis le début de l'émission avec vous, Clarence Rodriguez, journaliste, ancienne correspondante pour RFI. Vous avez vécu 11 ans en Arabie Saoudite à Riyad, et Stéphane Lacroix, vous êtes chercheur à Sciences Po Paris et vous avez écrit sur l'Arabie Saoudite. Le 24 juin, les femmes saoudiennes seront toutes autorisées, donc toute l'égalité, à conduire, bien que nous l'évoquions, elles devront quand même demander l'autorisation, ouais, probablement au tuteur, mais elles ont déjà, pour celles qui ont passé le permis, montré leur permis de conduire sur les réseaux sociaux. Et c'est tout de même une avancée énorme, ne serait-ce que pour la galère, ce que vous nous racontiez en première partie d'émission, dans les familles, pour les hommes qui devaient très souvent, ouais, servir de chauffeur, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer un chauffeur, contrairement à ce qu'on peut imaginer en Arabie Saoudite. Alors bien évidemment, c'est une des étapes dans une réelle ouverture de la société. On a parlé aussi de l'ouverture à la culture, à la musique, aux concerts, à des salles de concert qui se sont ouvertes, à des salles de cinéma qui n'ont jamais réellement existé auparavant dans l'histoire de l'Arabie Saoudite. On n'a pas cité aussi la place des femmes qui peuvent être maintenant nommées à l'Assemblée consultative depuis 2013. Qui n'est pas une assemblée nationale de députés, mais qui est une assemblée qui peut proposer des lois.
Il y a quand même le mérite, c'est qu'il y a quand même des femmes qui font partie donc, de cette assemblée. Avant, elle était quand même n'était que masculine.
Et puis, une timide mixité dans certains lieux publics. Alors, on le disait pendant le disque, si l'émission s'arrêtait là, évidemment, Stéphane Lacroix, vous le disiez, ça serait embêtant de ne pas parler, évidemment, ni de l'agenda politique du prince héritier Mohamed bin Salman, ni des répressions qui se sont abattues sur le pays. Et là aussi, il faudra essayer de comprendre le paradoxe de cette ouverture de la société et de la répression politique. Aujourd'hui, puisqu'on le dit, on est à un an de l'arrivée au pouvoir effectif du prince héritier. Et en même temps, un an après, il y a cette mesure phare. Des journalistes de la presse internationale vont débouler en Arabie Saoudite pour filmer, pour interviewer des femmes au volant, avec tout ce qu'il y a de très symbolique. Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le résultat d'un si long combat de la société civile, des femmes activistes, Clarence Rodriguez?
Alors, moi, j'ai envie de dire oui, de rendre hommage quand même à toutes ces femmes qui se sont battues tout au long de ces dernières années pour conduire.
Et décennies.
Pardon, et des décennies, absolument, absolument. Et donc, mais moi j'ai envie de dire que le pied reste sur le frein en ce qui concerne Mohamed bin Salman. La fête est un peu gâchée, si vous voulez, du 24 juin, parce que, vous savez, il y a un mois, quasiment jour pour jour, des femmes se sont fait arrêter, et elles sont, au moment où on se parle, sont toujours incarcérées.
Pour une partie d'entre elles.
Oui, et des militantes de la première heure qui ont été incarcérées, des femmes, donc, des militantes au droit de conduire. Donc, ce sont ces femmes qui ont impulsé, qui ont œuvré pour qu'elles conduisent un jour, donc le 24 juin, mais elles ne font pas partie, si vous voulez, de ces femmes qui pouvaient être, si vous voulez, dans la voiture. Donc, on annonce effectivement. Vous l'avez dit, la presse internationale va parler donc de cette journée du 24 juin. Mais attention, n'oublions pas qu'il y a quand même des mesures répressives à l'endroit de femmes militantes au droit de conduire.
Et pas que à l'endroit de femmes militantes pour le droit de conduire. Je pense que là, il faut élargir le sujet.
Oui,
Stéphane
oui.
Lacroix, sur la répression.
Il y a une répression qui est tout à fait. L'Arabie Saoudite n'a jamais été une démocratie. On est bien d'accord. Ça a toujours été un pays répressif, mais c'est vrai que ces deux dernières années, on est monté d'un degré dans la répression. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez fascinant, c'est tout le paradoxe de ce qu'on décrit ici, c'est que d'un côté, on a un processus de modernisation sociétale, économique, rapide et tout à fait surprenant, qui est imposé par le haut, hein, et c'est bien l'enjeu pour Mohamed bin Salman que de dire « je suis le réformateur et personne d'autre ne peut prétendre avoir la paternité de la réforme ». Donc, vous les militants, vous la fermez, on vous met en prison, parce que c'est pas à vous de dire que vous l'avez obtenu par votre combat, c'est moi, parce que je suis visionnaire, qui ai décidé de le donner. Et donc, à côté de ça, on a un resserrement de l'ordre politique autour de ce personnage, donc une autocratie comme il n'en a jamais existé en Arabie Saoudite. Jusque-là, l'Arabie Saoudite était un pays assez complexe, gouverné par ce qu'on pourrait appeler un jeu d'équilibre entre différentes factions, à la fois royales, dans les milieux économiques, dans les milieux religieux, avec une logique de consensus, de débat interne, avec beaucoup, évidemment, des enjeux familiaux et tribaux en arrière-plan. Tout ça aujourd'hui est en train d'être écrasé par une verticalisation du pouvoir. Hein. C'était c'est vraiment le slogan de Mohamed Ben Salman. Et il lui arrive en disant, aujourd'hui on peut plus se permettre d'avoir cette pluralité qui a existé en Arabie, cette pluralité de factions, cette recherche du consensus, cette société qui jusque-là s'exprimait beaucoup plus qu'on ne le pensait en Arabie Saoudite. Il y avait un débat public en Arabie Saoudite jusqu'en 2015-2016. Mohamed Bin Salman dit aujourd'hui, les défis sont trop grands, on a besoin d'un homme fort, d'un visionnaire, évidemment lui se voit comme étant le visionnaire, qui prend les choses en main aux dépens de tous les autres. Et donc, c'est moi qui décide.
Et quand vous dites que c'est monté d'un cran, ça veut dire quoi très concrètement? Parce que si on prend les chiffres de l'organisation Human Rights Watch, on a eu 48 exécutions à la peine capitale depuis le début de l'année, 150 en 2017.
C'est pas ça le curseur. Les exécutions à la peine capitale sont essentiellement pour trafic de drogue. Donc effectivement, là, c'est une répression qui est une répression de la criminalité, on va dire. Je veux dire. Et en l'occurrence, l'Arabie Saoudite, pour le moment, n'a jamais exécuté un opposant politique. On n'en est pas dans ça. Simplement, les opposants politiques jusque-là, en Arabie Saoudite, avaient droit de cité. On imagine toujours l'Arabie Saoudite comme ayant toujours été une dictature sanguinaire qui faisait place à personne. Or, si vous regardiez les réseaux sociaux saoudiens en 2013, par exemple, 2014, en fait, on y trouvait un débat tout à fait surprenant, qui ressemblerait, peut-on penser, alors, c'est pas la démocratie, mais c'est le Maroc, si vous voulez.
Alors, vu de loin, Maroc, jusqu'à l'incarcération du blogueur Raif Badawi, ou ça c'est juste vu de très loin et très schématique?
Ouais, Raif Badawi c'est un tout petit peu avant, mais c'est ça. C'est un moment où ça va se durcir. Alors Raif Badawi, lui, il a touché à des choses justement, et on est dans l'ancien système, il a touché à la religion. Et il a dit des choses qui étaient, disons, qui ont choqué les conservateurs. Donc, le pouvoir avait donné des gages aux conservateurs en faisant arrêter Raif Badawi. Mais vous aviez des gens qui étaient des démocrates en Arabie Saoudite, qui font campagne pour une démocratisation du système saoudien depuis au moins les années 90, qui n'ont été arrêtés que récemment. Donc le pouvoir pouvait tolérer d'avoir en Arabie des gens qui avaient des comptes Twitter et qui demandaient une monarchie constitutionnelle, qui demandaient des droits politiques, le pouvoir essayait de les coopter, de les acheter.
Il y
avait un jeu. Mais disons qu'on ne les mettait pas en prison. Là, aujourd'hui, cette parole-là n'a plus droit de citer. Toute voix qui s'élève pour critiquer ce que fait Mohamed Ben Salman, y compris sur la question économique, par exemple, vous avez l'une des personnes qui a été arrêtée en septembre dernier, Aïssa Mazamel, qui est un économiste qui avait 1 million de followers sur Twitter, c'est pas rien. Économiste très respecté, un jeune gars très brillant, qui simplement expliquait que le plan de Mohamed Ben Salman, économiquement...
Vision en fait, 2030.
Que la vision 2030 sur le plan économique était une aberration. Et en particulier, il avait fait tout un calcul pour montrer que la cotation en bourse de l'Aramco se ferait jamais...
La compagnie pétrolière.
Se ferait jamais au montant qui avait été annoncé par Ben Salman, que ce serait une catastrophe en fait économique pour l'Arabie et qu'il fallait surtout pas faire ça. Bon, ben aujourd'hui, on ne peut plus dire ça en Arabie. Il est en prison depuis septembre dernier. Et lui n'est ni islamiste, ni quoi que ce soit. Il est simplement quelqu'un qui utilisait son compte Twitter pour donner son avis.
Il y a juste quelque chose que je vais relever. Il y a eu un opposant politique qui a été exécuté, Nimer al-Nimer, l'opposant chiïte en 2016.
On est post-2015.
Et après, oui, effectivement. Alors, d'où la question intéressante d'un auditeur.
On faisait pas ça avant 2015. Non, et ça, c'est déjà Mohamed Ben Salman.
Exact, mais oui, c'était sa griffe déjà et sa patte.
On a la question intéressante d'un auditeur shérif qui a 19 ans, qui est N'Djamena au Tchad, et qui vous pose cette question. Quelle est l'origine de la revendication des femmes à conduire et du combat? C'est-à-dire que depuis le début de l'émission, vous nous expliquez que c'est le prince héritier Mohamed Bin Salman qui tient l'agenda, qui a décidé du 24 juin pour l'autorisation des femmes à conduire, qui veut revendiquer cette ouverture sociétale et ce droit des femmes. En réalité, depuis de longues années, depuis plusieurs dizaines d'années, il y avait des femmes activistes. Clarence Rodriguez, vous en connaissiez un certain nombre. Vous aviez fait des sujets sur elles qui se battaient pour cela. Alors, d'où la question de Shérif. Est-ce que ces forces-là, ces revendications-là, en réalité, ont compté pour très peu. Qui étaient toutes ces figures depuis plusieurs années qui militaient pour le droit de conduire?
Ce sont des femmes quand même d'une classe moyenne, hein, même parfois de la bourgeoisie saoudienne, des femmes qui, pour la plupart, avaient voyagé, des femmes qui posséder d'ailleurs leur permis, parce que je veux revenir sur l'épisode de 1990, on est en plein cœur de la guerre du Golfe, et vous avez 47 femmes qui se mettent au volant pour un petit peu faire comme les soldates américaines, en disant, mais attendez, on est chez nous, on est en Arabie, on est à Riyad, les soldates américaines conduisent, et nous, on ne peut pas, donc elles ont quand même, voulu donc défier donc les barbus, hein, les oulémas, et ce sont ces femmes.
C'est l'ancienne génération.
Oui, mais vous voyez par exemple. Oui, mais c'est l'ancienne génération. Mais
la plupart des professeurs d'université, en fait. Dans les 47, il y a une majorité d'intellectuels et professeurs d'université.
Absolument. Il faut bien préciser qu'aujourd'hui, en Arabie Saoudite, on a 60% des étudiants qui sont des filles.
Absolument.
Elles sont plus éduquées, plus diplômées, sauf dans certaines filières très techniques du type ingénierie. C'est à peu près la même chose en Iran, d'ailleurs. Hein. Mais aujourd'hui, on a plusieurs générations de femmes militantes qui mettent la pression politique pour que les réformes avancent sur les droits des femmes.
Beaucoup de jeunes. Vous voyez, je veux prendre l'exemple de Loujane Alatoul, cette jeune femme qui a été arrêtée fin 2014 en voulant passer la frontière saoudo-émirati. Elle a passé donc avec Maïssa Alamoudi. Elles ont passé 75 jours donc en prison. Et elle est toujours, d'ailleurs, Loujane
elle
est toujours.
Elle a,
ouais, exactement. Et elle fait partie donc des leaders. Et elle est jeune. Et vous avez beaucoup. C'est pour ça. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, moi, je parlerai d'une politique contrastée de la part donc de Mohamed bin Salman. D'un côté, on veut donner des gages, notamment à la politique, à l'international, aux investisseurs, entre autres, d'ailleurs, hein, donner l'image d'un pays qui bouge, qui change, qui est réformé, etc. Mais d'un autre côté, on parle toujours de cette répression. Donc, d'un côté, on avance. Et on fait trois pas en arrière, vous voyez, c'est
Mais en fait, je pense
contrasté.
Que c'est le même projet, c'est-à-dire qu'en fait, le projet n'est pas contradictoire. Et le modèle, effectivement, on le disait un peu hors antenne, le modèle, c'est la Chine, effectivement. C'est-à-dire, c'est un pouvoir qui se veut un pouvoir éclairé, qui impose par le haut à la société sa manière de voir, qui veut, je pense, il est sincère dans sa volonté de moderniser la société, de changer de modèle économique. Mohamed Ben Salman, c'est pas que de l'affichage,
tu l'avais dit,
Laurence Rodriguez. Au départ, je pense qu'on est en quelque chose, effectivement, qui est sincère. Il comprend que le modèle actuel ne peut plus fonctionner, que s'il veut que son pays tourne, il faut changer de paradigme économique, que pour changer de paradigme économique, il faut que les femmes travaillent puisqu'elles sont diplômées, qu'elles coûtent beaucoup d'argent à l'État dès lors qu'il faut utiliser des chauffeurs, etc. Donc tout ça, c'est plus possible. Mais par ailleurs, lui considère que ça ne peut se faire que dans un État qui serait un État tout-puissant, qui imposerait les choses par le haut, que la société civile est une mauvaise chose. C'est-à-dire que la société civile, si on considère que ça veut dire que les gens s'organisent eux-mêmes, surtout pas, que les gens demandent des réformes, surtout pas, ça vient par le haut et par le haut uniquement.
Ça veut dire que cette autorisation de conduire pour les femmes aujourd'hui, pour des femmes qui appartiennent à la société civile, qui veulent continuer à militer, à être activistes, à faire entendre leur voix sur les réseaux sociaux, à se réunir, c'est le cadeau empoisonné, dans le fond, ou pas ?
Pas un cadeau
en tout cas, une forme de monnaie d'échange dont elles ont conscience.
C'est pas un cadeau empoisonné. Je pense qu'il y a des femmes en Arabie qui sont et nombreuses qui sont tout à fait contentes de pouvoir conduire. Je veux dire, ce qui embête un peu tout le monde. Et moi, ce que l'on voit avec nos amis sur place, Clarence Rodriguez et moi, c'est que les Saoudiens sont à la fois ravis et terrifiés. C'est ce double sentiment.
Absolument.
Quand on parle à nos amis saoudiens, d'un côté, ils sont très contents, parce qu'ils sont contents d'aller au concert, et ils sont contents, quand ce sont des femmes, de pouvoir conduire, quand ce sont des hommes, que leurs femmes puissent conduire, pour la plupart. Mais en même temps, ils n'ont jamais été aussi terrifiés par ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, pour un tweet qui n'est pas dans la ligne, on peut être arrêté au milieu de la nuit, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc, ils se sentent dans quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. C'est-à-dire à la fois un changement très rapide, qui pour la plupart les réjouit, mais en même temps, une chape de plomb tels qu'ils n'en ont jamais senti. Et donc, du coup, ça gâche un peu la fête. C'est ce que disait Clarence Rodriguez.
Quelle réalité, quelle marge de manœuvre pour la société civile aujourd'hui qui pourrait imaginer que, par exemple, il va y avoir une ouverture culturelle, puisqu'il y a maintenant des possibilités de représentation, de concerts, mais pour dire quoi dans les chansons, pour raconter quoi dans les pièces
C'est ça le problème. C'est qu'à un moment, quand on écrase la société civile, on ne peut pas faire de la culture à partir de rien. Il y a un moment, alors on va faire venir des étrangers, on va traiter de thèmes qui seront très politique, mais aujourd'hui, il ne peut pas y avoir d'art politique en Arabie. C'est pas possible, c'est-à-dire que le pouvoir peut pas tolérer. Donc le pouvoir veut une sorte de culture un peu entre le folklorique et le mondialisé, mais qui mange pas de pain, entre guillemets. C'est le modèle des Émirats Arabes Unis, par ailleurs, hein, pour vos auditeurs qui peuvent connaître. Les Émirats Arabes Unis, en fait, ont fait ça il y a 10 ans. Les Émirats Arabes Unis aussi, le Louvre à Abu Dhabi, etc. Hein. Mais le Louvre à Abu Dhabi, ça
où
mange pas de
culture,
pain, politiquement.
La culture, en fait, est un produit sur le marché, finalement.
C'est ça.
Et c'est donner aussi une bonne image du pays, de montrer que ce pays avance, même sur un plan culturel. Mais c'est, si vous voulez, c'est une image qui est un petit peu opaque. C'est ce que disait justement Stéphane Lacroix à l'instant. Je veux dire que comment voulez-vous faire de la culture quand les gens sont muselés ? Comment voulez-vous que les gens se sentent à l'aise alors qu'ils ont peur ? Effectivement, moi c'est pareil. Je veux dire, les Saoudiens ou les Saoudiennes que j'ai au téléphone ou que voilà, je contacte, eh bien, ils n'osent même plus parler ou quoi que ce soit. Vous voyez.
Donc, quelle est la réalité justement de la liberté sur Internet à l'heure actuelle en Arabie Saoudite ?
Pire que jamais.
Ouais.
C'est pire que jamais. C'est-à-dire que
quotidiennement, les Saoudiennes sont toute la journée sur leur smartphone.
Et les Saoudiens. L'Arabie Saoudite est le pays qui a le plus de
jeunes
Twitter
qui ont moins de 35 ans, voilà, on comprend.
Et Twitter était vraiment la sphère publique saoudienne, c'est-à-dire que jusqu'en 2015, les gens échangent très librement sur Twitter. On critique pas le roi, mais on discute de tout. Et on discute de tout et le pouvoir n'intervient pas. Depuis 2015, on va en prison pour un tweet. Il y a une armée électronique en fait qui a été mise en place par les conseillers de Mohamed Ben Salman qui sème la terreur sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en fait si aujourd'hui vous dites quelque chose qui n'est pas dans la ligne, vous êtes harcelé par des milliers de trolls payés par le pouvoir, qui vous insultent, qui vous menacent, qui font courir des rumeurs sur vous, etc. Donc aujourd'hui il y a une reprise en main des réseaux sociaux qui ressemble à ce que font d'autres régimes autoritaires. Là aussi on pense à la Chine, on pense à la Syrie, où vous avez aussi cette armée électronique de pro-Bachar qui avait essayé de faire taire les opposants.
Et paradoxalement, une parole qui se libère sur les relations entre hommes et femmes, par exemple.
Ça va parce que c'est dans la ligne. Non mais c'est ça qui est très paradoxal, c'est que la ligne a bougé. Aujourd'hui, il y a
même
certains
thèmes... Même sur la religion, on peut parler un petit peu plus facilement.
Par exemple,
si vous
prenez Raif Badawi. Badawi aujourd'hui ne serait pas probablement pas arrêté.
Et ben voilà, c'était la question que j'allais vous poser.
Raif Badawi, il a été arrêté dans l'ancienne Arabie parce qu'il a parlé de religion, mais il n'était pas très politique, Raif Badawi. C'était pas un démocrate, Raif Badawi. C'était quelqu'un qui faisait de la critique du religieux. Aujourd'hui, Raif Badawi aurait beaucoup plus sa place qu'à l'époque. Par contre, des gens qui, à l'époque, pouvaient parler parce qu'ils faisaient de la critique politique, aujourd'hui, sont en prison. Donc, c'est simplement les lignes du débat.
Y compris sur les réformes économiques à venir. Vous restez avec nous, bien sûr, les voisins, si vous souhaitez poser des questions à nos invités. Je vous redonne notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. 84 22 71 71. On est en direct jusqu'à 13h, heure de Paris. Et nous parlons donc de cette date importante, le 24 juin, où les Saoudiennes seront autorisées à conduire. Be upon you, it's how I start this flow. When I rock the show, from head to toe, do it fast and slow, hit 'em high, hit 'em low, that's how I roll. Although, what we need around here is to make a change, mentality to rearrange, frustration needs to be deceased, expression needs to be released. It's about energy, it's not about time, elevate and motivate the state of mind. If I could, then I would, cause I should do it. And if I do, but I don't, then I won't do it. I do, you do, they do, we do. Please do, everybody wanna do, so do it. Now I'm leading, and I'm leading to tell y'all. Example for the movement, y'all. سموني يا سفير قالوا عني كبير جديد وقدمت تاريخ ودخلت إنجاز وعملت قلوب كسبت لكن كل ده ومو كفاية وإحنا لسه يادو في خط البداية كلام مع نفس وقعدة وبس صرنا صلاة جرجير وخش إحنا ليه صرنا كده وكيف وكلمتنا كان زي السيف نفسي نفسي وغش وطمع كذب وسرقة وظلم وجشع النفاق بلاش منه يا جماعة فلا الاحترام سيبوكم اللكاعة حقول كلام كتير لا نكون نجري نطمح ونقوم مخبوط
احنا of the year 2000 when? Cause there are no shortcuts to your dreams and all things ain't always what it seems. لو انت عارف النظام عشان درستو انا عارف النظام عشان مرستو. Now I'm leading and we're leading to tell y'all. Example for the movement, tell y'all.
Écoutez 7 milliards de voisins, on est en direct du lundi au vendredi et nous sommes en compagnie de Clarence Rodriguez, journaliste spécialiste de l'Arabie Saoudite, puisque vous avez été correspondante notamment pour RFI, vous avez vécu 11 ans à Riyad, et Stéphane Lacroix, vous êtes chercheur, professeur à Sciences Po Paris et vous travaillez sur l'Arabie Saoudite.
J'ai aussi vécu à Riyad.
Et vous avez aussi vécu à Riyad, et d'ailleurs vous nous le disiez tout au long de cette émission, vous êtes en contact permanent avec des amis saoudiens. On commente cette réforme qui est très symbolique, très suivie par la presse internationale et qui va avoir lieu a priori le 24 juin prochain, ça va se faire, hein, les Saoudiennes autorisées à conduire. Vous nous le disiez d'ailleurs, Stéphane Lacroix, les Saoudiens que j'ai au téléphone disent à la fois qu'ils sont heureux et terrifiés. Ça dit beaucoup de choses de cette ambivalence à l'heure actuelle en Arabie Saoudite sur des réformes sociétales importantes. Il y a eu d'autres réformes auparavant pour assouplir notamment le tutorat qui n'est pas terminé d'assouplir. Est-ce que toutes ces... Stéphane Lacroix, d'abord je voulais vous poser la question parce que vous nous disiez pour le blogueur Raif Badawi qui a critiqué la religion et qui est incarcéré depuis combien de temps maintenant ?
Six ans.
Hein, aujourd'hui il ne serait probablement plus incarcéré, mais en revanche un opposant politique, un critique acerbe de la politique économique de Mohamed Bin Salman serait incarcéré, et c'est le cas. On voit bien que les équilibres sont en train de changer. Alors, jusqu'à maintenant, on parlait de subtil équilibre politique entre les conservateurs qui veulent que rien ne change, et surtout pas l'organisation familiale, la soumission des femmes en relation avec la charia, et les libéraux qui veulent placer le pays dans la marche du monde. Où en est cet exercice d'équilibre ? Est-ce que les cartes sont un peu plus complexes, un peu plus brouillées, Stéphane Lacroix, pardon ?
Oui. Bah là, aujourd'hui, on a un pouvoir qui clairement est en train de museler les conservateurs avant tout, puisque les conservateurs sont évidemment sur les questions sociétales, en particulier ceux qui étaient susceptibles d'être les premiers à s'opposer. Donc les conservateurs, aujourd'hui, ont beaucoup perdu en pouvoir. Les oulémas qui, jusque-là, sous les masses sont les clercs dans l'islam, qui jusque-là avaient une autorité énorme en Arabie, beaucoup plus grande que dans n'importe quel autre pays musulman. Aujourd'hui, ils ont perdu une grande partie de cette autorité. Ils sont réduits à faire des déclarations pour valider ce que fait Mohamed Bin Salman, parce qu'eux-mêmes ont peur. Pas forcément parce qu'ils sont d'accord, mais aujourd'hui, ils n'ont plus la marge de manœuvre qui était la leur. Cela dit, donc le pouvoir, on pourrait penser qu'il est du côté des libéraux, hein, entre guillemets, mais en fait, il est du côté d'une certaine catégorie de libéraux, à condition qu'ils fassent pas trop de bruit.
Et qu'ils suivent le plan Vision 2030.
C'est ça. Et en particulier, dans libéraux, il ne faut pas imaginer qu'on parle de démocrates nécessairement. Vous avez en Arabie des gens qui mettent en avant les libertés sociétales, mais qui soutiennent le pouvoir à 100%. Et ici, une question qui n'est pas abordée, c'est celle de la démocratisation. Mohamed Bin Salman, à aucun endroit dans le plan, on parle de démocratisation. On va, on l'a dit, vers un système à la chinoise, au mieux, hein, si les choses devaient marcher. Mais c'est ce qu'envisage Mohamed Bin Salman. Et donc, tous ceux qui voudraient aussi des réformes politiques sont aujourd'hui en prison. Et tous ceux qui ont le malheur d'exprimer un désaccord avec la manière dont Mohamed Bin Salman réforme en général sont en prison.
Mais Vision 2030, c'est de toute façon, c'est d'abord un plan économique. C'est l'après-pétrole. C'est le déficit budgétaire. Qu'est-ce qu'on va faire ?
C'est vrai, mais on peut pas dissocier complètement les deux. C'est-à-dire que si on réforme une société, surtout une société comme l'Arabie Saoudite, qui est une société complexe, société où vous avez d'abord un royaume qui s'est unifié au début du XXe siècle, après quelques expériences par le passé, mais qui unifie quatre régions qui sont très différentes. L'Arabie Saoudite, c'est un monde. La région de la Mecque et Médine, qu'on appelle le Hejaz, la région du centre, le Najd, la région orientale, vous avez une minorité chiite assez forte, les régions du sud qui ont appartenu au Yémen jusqu'en 1934. Là, vous avez un royaume qui est quand même constitué de quatre morceaux qui sont très différents. Vous avez une diversité tribale, familiale, considérable en Arabie, avec des manières de faire les choses qui sont très différentes. Vous avez une société qui est très politisée historiquement en Arabie, contrairement à ce qu'on imagine. Les Saoudiens sont politisés. Et donc tout ça, aujourd'hui, vouloir réformer les choses en écrasant cette diversité sous une chape de plomb qui voudrait, d'une certaine manière, mettre tout le monde à la même enseigne, ça ne peut pas marcher. Et le modèle, c'est les Émirats Arabes Unis. Mais les Émirats Arabes Unis, il y a 1 million d'habitants. En Arabie, il n'y a pas 1 million d'habitants. Et c'est une société qui a historiquement beaucoup plus de complexité. Donc c'est là que le bas blesse.
C'est
d'étrangers. Précisément parce qu'on ne prend pas en compte le politique.
Est-ce qu'il y a un lien, Stéphane Lacroix, entre les transformations sociétales et la géopolitique, la place que veut occuper l'Arabie Saoudite sur la scène internationale, est-ce qu'il y a une corrélation entre tout cela?
Oui, bien sûr. Alors aussi, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, sur le plan international, a un ennemi juré qui est l'Iran. C'est ça, d'une certaine manière, qui guide toute sa politique étrangère. Et Mohamed Ben Salman, toute sa montée en puissance, elle est constituée à partir de ces deux dossiers, le dossier de la réforme intérieure, la vision 2030, et la lutte contre l'Iran pour l'extérieur. Et il ne parle que de ça depuis 3 ans. Et sur la question de l'Iran, son calcul, c'est de monter une alliance large contre l'Iran. En particulier, donc, avec les États-Unis, essayer de convaincre les Occidentaux. Et un des arguments, et il est venu en France récemment parler au président Macron, etc., c'est quelque chose qu'il essaye de vendre, sa guerre contre l'Iran, parce que c'est ça qu'il s'agit. Hein. Lui, il voudrait un conflit contre l'Iran, il voudrait essayer de remettre, comme disent les Saoudiens, l'Iran à sa place. Et pour faire ça, ce qui est fascinant aujourd'hui, quand on écoute les Saoudiens, c'est qu'on vous explique que les fondamentalistes, ce sont les Iraniens. Les islamistes, c'est eux, pas nous.
Les progressistes sont les Saoudiens avec des femmes qui auront le droit de conduire
et
le 24 juin.
Et 79, c'est cette date. Et si Mohamed Ben Salman répète la date de 79 dans tous ses discours, en disant c'est à partir de 79 que la région a commencé à entrer dans cette phase de conservatisme extrême, quand il dit 79, il pense la révolution islamique iranienne.
Exact. On arrive au terme de cette émission. À quoi ressemblera l'Arabie Saoudite dans 12 ans? C'est-à-dire le plan Vision 2030, c'est demain 2030 pratiquement. Selon vous, Clarence Rodriguez, difficile?
C'est un peu compliqué. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure à Stéphane Lacroix, c'est qu'il fut un temps où j'étais très optimiste. Je le suis de moins en moins par rapport à ce qui se passe, parce que on annonce des réformes qui vont certainement dans le bon sens, si vous voulez, de l'évolution de ce pays.
La réforme sur le tutorat va se poursuivre,
ben
par
ça,
exemple
ce serait, je vais vous dire...
Elle n'est pas encore abordée.
Non, elle n'est pas abordée.
Mais c'est ça, ça n'a pas
dans
été
la
annoncé.
Tête des femmes, c'est la prochaine étape. C'est l'assouplissement du tutorat pour que les femmes puissent obtenir un passeport, voyager, se marier sans l'autorisation d'un tuteur.
Ce serait, je veux dire, c'est la réforme. Et puis j'ai envie de dire que si MBS veut durer, etc., il y a aussi des gestes forts à avoir, et notamment à l'endroit, pourquoi pas, de ce jeune bloc blogueur et journaliste Raif Badawi, oui, qui est emprisonné, on l'a dit, depuis 6 ans, et qui finalement, ces 6 ans, ça ne se justifie plus, comme vous le disiez, Stéphane.
Des réformes idéalement de tous les autres aussi.
Les autres aussi, absolument.
On l'a compris, en tout cas, à la lumière de vos analyses qui sont passionnantes, des réformes qui vont se payer probablement au prix très fort. Juste, on termine avec ce message d'humour d'un auditeur de Pape à Dakar, qui nous dit, si les Saoudiens pensent que c'est lié à des problèmes d'aptitude physique que les femmes ne peuvent pas conduire, moi je ne suis pas d'accord, les femmes sont meilleures que les hommes, parce qu'ici au Sénégal, personnellement, je n'ai jamais vu de femme avoir un accident. Merci Pape pour ce petit message. Merci à vous tous. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Les références de vos ouvrages sont bien sûr notées pour les uns et les autres. Merci d'être passé dans l'émission sur le site RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Demain, reportage en Ouganda auprès d'anciens enfants soldats. Reportage réalisé par Charlie Dupiot, à ne pas manquer. À demain.